Radio Kapi.
De plus en plus de mouvements de retour des populations vers Goma, celles qui avaient fui l'éruption du volcan Nyiragongo, au moins 160 000 sont rentrés malgré la mesure d'interdiction des autorités. Ce retour spontané a déjà des conséquences, indique un rapport de OCHA publié hier soir. Déjà plusieurs semaines passées depuis la fermeture de l'Assemblée provinciale du Kwilu, le député Rombo Fumani exige du vice-premier ministre en charge de l'intérieur des explications sur les dispositions légales qui fondent son pouvoir de fermer cette institution. L'élu de Gungu a déposé une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, l'invité de ce soir, Stanislas Kabea, coordonnateur diocésain des écoles catholiques au diocèse de Mbujimayi, il nous parle de la gestion de certaines écoles que l'État congolais a rétrocédées à l'Église catholique, ce depuis 1976. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu. Les mouvements de retour des populations vers Goma s'intensifient, indique le rapport de OCHA publié hier samedi soir. Au moins 160 000 personnes étaient déjà retournées au chef-lieu du Nord Kivu au 1er juin dernier, indique ce rapport. Cependant, les partenaires humanitaires indiquent que ce retour spontané, motivé par le fait que les tremblements de terre ne sont plus ressentis dans la ville, a d'autres conséquences. Bernardin Nyangi nous en parle.
Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA indique qu'entre autres conséquences de ces retours spontanés de déplacés vers la ville de Goma, c'est la hausse du prix de transport en commun. Citant le rapport d'une enquête menée par l'organisation Médecins d'Afrique, le trajet Minova-Goma en bus par exemple, qui coûtait environ 3000 francs congolais avant l'éruption volcanique, est désormais passé à 10 dollars américains par passager. Ce rapport indique qu'en plus des 160 686 personnes qui étaient retournées à Goma au 1er juin dernier, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, rapporte qu'au moins 245 000 personnes étaient encore en déplacement. En séjour à Goma, depuis samedi, le Premier ministre Samalou Kondé a dit à la presse qu'une discussion est en cours avec les humanitaires pour organiser un retour ordonné de ces déplacés vers la ville. Rappelons qu'au sujet des enfants déplacés, au moins 1340 non accompagnés ont été identifiés depuis le début de la crise, dont 1038 déjà réunifiés avec leurs familles à ce jour, précise OCHA. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, c'est depuis une semaine que 30 000 à 60 000 habitants de Munigi au nord de Goma sont réapprovisionnés en eau potable. Sinistrés de l'éruption volcanique ou non, ces personnes sont à nouveau épargnées des longs trajets à la recherche de l'eau au lac Kivu, mais aussi des maladies d'origine hydrique. Cela grâce au CICR, Comité international de la Croix-Rouge, qui a rétabli en partie le réseau de la régie des eaux détruit par la lave volcanique en faisant recours au système dit de camionnage. Jules Nga la signe ce reportage.
Au réservoir de la régie des eaux à Munigi, les ménagères peuvent à nouveau s'approvisionner, un peu comme avant l'éruption volcanique, mais cette fois-ci, le remplissage du réservoir est assuré par le CICR grâce au système de camionnage. C'est comme le confirme ici Elia Dieudonné, volontaire de la Croix-Rouge du Congo, rencontré sur place.
Comme les tuyaux de la régie des eaux sont abîmés à cause des laves là, maintenant, la CIC, ils ont amené de l'eau. Il y a des camions qui ravitaillent de l'eau dans ces tanks ici, des régies des eaux, pour que les gens puissent profiter.
Le CICR intervient notamment dans la réparation des infrastructures d'eau, parfois dans des villages isolés. En attendant, Raphaël Teno, chef de la sous-délégation CICR Goma, rassure les habitants de Munigi.
Le CICR va rester engagé ici, au réservoir de Munigi, pour que cette population ne soit pas privée d'eau.
Goma, Jules Ngalawamona, Radio Kapi.
Par ailleurs, la population du Nord Kivu est appelée à renforcer sa collaboration avec les autorités tant civiles que militaires, ainsi que la MONUSCO, pour que la réussite de l'état de siège soit le fruit des efforts collectifs. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue d'un atelier de renforcement de collaboration entre ces différentes parties, atelier organisé par la MONUSCO. La mission onusienne a tout de même expliqué son mandat lors de cette activité qui a duré 2 jours. Edgar Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, revient ici sur d'autres recommandations au micro de Grace Amzati.
Il y a eu plusieurs recommandations et toutes ces recommandations peuvent se résumer en une seule, celle de renforcer la cohésion, la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC, entre la police et la population pour que l'on arrive à endiguer la situation telle qu'elle se présente. Cela exige à ce que l'on se partage les numéros d'alerte, que la population remonte les informations à temps auprès des organes de la sécurité et que les responsables militaires et policiers puissent communiquer régulièrement à la population les résultats de leurs efforts et puis les nouvelles attitudes à prendre. Au même moment, la MONUSCO, qui doit continuer à appuyer les FARDC et la police, doit également expliquer comment elle est en train de matérialiser son mandat pendant cette période cruciale de l'état de siège. Nous voudrions réussir tous ensemble.
Et puis, deux semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo, une commission des jeunes dite SOS Goma lance une chaîne de solidarité en faveur des victimes. Cette commission est composée de plusieurs structures des jeunes de Kinshasa. La cérémonie officielle a eu lieu hier à Kinshasa en présence du ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou. Paul Matendo était de la partie.
Parmi les structures de jeunes, il convient de noter les conseils nationaux de la jeunesse, le forum national de la jeunesse, le mouvement citoyen, les jeunes de confession religieuse et les scouts. Pour Yves Boukoulou, ministre de la jeunesse, cette initiative, commencée à Kinshasa, devra s'élargir dans toutes les provinces en faveur des victimes de l'éruption volcanique.
Je tiens à féliciter la coordination et à féliciter également tous les jeunes ici présents. Ce geste symbolique qui vient d'être posé ici à Kinshasa sera également posé dans les autres villes ainsi que dans toutes les autres provinces du pays en faveur de nos compatriotes de Goma.
Patrick Katunga, coordonnateur de l'initiative SOS Goma à charge des finances, rassure que tous les mécanismes sont mis en place pour que les fonds collectés arrivent aux destinataires.
Nous devons rassurer tous nos compatriotes jeunes. Tous les mécanismes de contrôle, de traçabilité et de transparence sont bien clairs. Nous allons tout faire pour que cet argent, tout ce que nous allons récolter, va arriver à destination.
Cette initiative est la réponse à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la mobilisation nationale en faveur des victimes de Goma, soulignent les organisateurs.
Je vous le disais en titre, fermeture de l'Assemblée provinciale du Kwilu. C'est depuis plusieurs semaines déjà. Une question orale avec débat vient d'être déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement par le député national élu de Gungu dans le Kwilu. Rombo Fumani exige du vice-premier ministre en charge de l'intérieur des explications sur les dispositions légales qui fondent son pouvoir de fermer cette institution. Pour l'élu de Gungu, cette décision a paralysé les institutions provinciales du Kwilu. Le député Rombo Fumani, dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kwilu, le président sortant, les gouverneurs sont bloqués ici, appelés par le ministre de l'Intérieur, pour des raisons qu'il lui-même connaît. Et entre-temps, la province est paralysée. Nous nous rendons compte vraiment que la province ne bouge pas. Il est une province à problème. Mais quand on vient encore déstabiliser, bloquer les institutions, pour ça ne fonctionne pas, ça dérange. Nous sommes élus du peuple, nous sommes des nationaux, nous ne pouvons pas laisser les gens en situation passer comme ça sans avoir l'information. Nous avons buté le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de décentralisation et consorts. Donc ils viennent ici éclairer un peu l'intelligence de mettre que c'est normal qu'une assemblée reste par la toute institution sans plénière, sans tenue de plénière. Ça signifie qu'il y a une défaillance au niveau de leur bureau. Bah, c'est pas la mobilité qui manque. Donc ça signifie qu'il y a une défaillance au niveau du bureau. Je veux bien savoir où est-ce que les vice-premiers ministres et ministres d'intérêt tirent les fondements légaux pour interdire à ces gens de continuer à faire amener leurs activités comme il les fallait. Donc s'ils doivent, ils peuvent nous expliquer, ça sera une très bonne chose. Ça nous comprendrons. À notre connaissance, moi en tant qu'originaire des Kwilu, à ma connaissance, il n'y a ni trouble, ni guerre, ni quoi que ce soit là-bas. C'est simplement une activité normale d'une assemblée.
Rendons-nous à Gbadolité et parlons de cette marche pacifique hier de plusieurs centaines d'agents de la fonction publique. Il s'agit de ceux qui prestent depuis près de 10 ans, mais qui ne sont jamais rémunérés. Ces agents non payés, appelés NP, ont alors déposé un mémorandum adressé au chef de l'État auprès du directeur de cabinet du gouverneur du Nord Ubangi. Ils réclament notamment l'amélioration des conditions socio-professionnelles, mais aussi l'effectivité de leur mécanisation, déjà annoncée par le gouvernement central. Maurice Lissongo, président syndical, explique la motivation de leur action au téléphone de Paul-Richard Malengela.
On nous appelle le LP, nous sommes comme les agents fonctionnaires de l'État, nous travaillons, nous ne touchons rien comme salaire ni prime. Il y a de cela plus de 10 ans aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train de manifester notre indignation. La ministre sortante avait procédé au traitement des fichiers du personnel de carrière de service public. Elle a affirmé que le gouvernement congolais avait réussi à budgétiser en 2020 plus d'un million d'agents et fonctionnaires de l'État. Faites un peu ce calcul. Plus d'un million de personnel divisé par le 25 des provinces qui comptent notre pays. Vous pouvez constater avec moi que dans chaque province, il y aura 38 461 agents et fonctionnaires de l'État qui auraient dû toucher mensuellement les rémunérations, les traitements. Nous posons la question de savoir où serait la part de l'Oumbangui. En tout cas, les personnels de carrière du service public et de l'État de l'Oumbangui sont marginalisés. Raison pour laquelle nous sommes en train de manifester notre indignation pour que le président de la République a dit que c'est d'abord puisse répondre dirigeamment à nos exigences.
De son côté, le gouverneur de province par intérim, qui revient d'une mission à l'arrière-province, a promis de prendre d'abord connaissance du mémorandum de ses agents avant toute réaction de sa part. Rendons-nous en Ituri. 7 nouveaux transformateurs viennent d'être acquis par la société Kilomoto Sokimo. C'est pour améliorer la qualité de la desserte en électricité dans la ville de Bunia, qui compte environ 2 millions d'habitants. Jusque-là, c'était le système de délestage qui pouvait durer plusieurs semaines, voire des mois. Les habitants saluent cette mesure de Sokimo qui, espèrent-ils, va aider à baisser les taux de criminalité urbaine. Des détails avec Charlie Omba.
Au total, l'acquisition de la Sokimo porte sur 7 transformateurs, 27 km de câbles électriques et 7 tableaux de distribution basse tension. Ce matériel moderne sera installé dès ce lundi 7 juin dans les différents quartiers de la ville de Bunia. Il s'agit entre autres des quartiers Ngezi, Kanyasi, Cité, Kindia, Hoho et l'abattoir de Bunia, précise Diedone Kabaseke, chef de l'électro-Kimo. Il ajoute qu'avec ces nouvelles acquisitions, le taux de desserte en électricité dans la ville de Bunia va ainsi passer de 40 à 65%, ce qui va améliorer les conditions de vie des habitants.
C'est pour améliorer la desserte en électricité dans la ville de Bunia et ses environs. C'est sur fonds propres de la Sokimo.
De nombreux habitants de Bunia se sont réjouis de cette nouvelle. Il faut dire qu'à Bunia, des quartiers entiers sont dans les noirs depuis des mois, voire des années. C'est là, malgré les dons par les chefs de l'État des 4 premiers transformateurs. Quant aux quartiers qui sont desservis en électricité, soit la puissance du courant est faible, soit ce sont des délestages qui peuvent durer plusieurs semaines, voire des mois. Quoi qu'il en soit, beaucoup ici affirment que l'augmentation de l'électrification de la ville de Bunia va mettre fin aux nombreux cas de banditisme enregistrés dans les différents quartiers de cette agglomération. Bunia, Charlie Omba, Radio Okapi.
Direction le Congo central. Les travaux de réhabilitation de la route Boma-Mwanda, exécutés par la société chinoise Guangping, avancent à pas de tortue, motif le détournement des matériaux des constructions destinés à ces travaux. C'est ce que dénonce Frazier Mvemba, président du Cercle de réflexion des jeunes de la ville de Boma. Devant la presse hier, il a également accusé cette société chinoise de ne pas respecter le contrat signé avec d'autres entreprises de construction de Boma. Selon lui, l'Agence congolaise des grands travaux et certaines autorités locales tire des dividendes de ce détournement des matériaux dont Guangping est accusé. Frazier Mvemba interpelle les autorités compétentes. Il est au micro de Nana Plurish Mambo.
Nous sommes très déçus du comportement non citoyen qu'affichent les Chinois qui sont affectés à la société Guangping destinée à construire la route Boma-Mwanda. Cette entreprise ne respecte pas le contrat signé avec une entreprise de construction de la place, mais aussi nous constatons avec regret que ces Chinois sont en train de dévier le matériau destiné à la construction de la route Boma-Mwanda. Et cette déviation est soutenu, voire accompagné par l'agence de grands travaux qui, en lieu et place de jouer son rôle de contrôle et de l'œil de l'État dans le contrôle de travaux qui s'effectuent, met ses substituts en commissionnaire afin d'attendre les dividendes à chaque déviation de matériel de construction destiné à la construction de Mwanda. Et nous insistons que ces matériaux sont envoyés pour utilité des individus. Et la passivité des autorités locales nous laisse sans mots et nous pousse à croire qu'il y a complicité dans tout ce qui se passe.
Contactez Jean-Pierre Voulato, l'ingénieur de projet Route Matadi Boma Mwanda au sein de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, rejette ces accusations. Pour lui, les travaux de construction de la route Boma Mwanda avancent plutôt bien. Cette route devient très praticable, selon lui, en moins de 2 heures. D'après Jean-Pierre Voulato, l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, n'est pas mêlée à la déviation de ces matériaux. En tant qu'une firme de l'État, dit-il, l'ACGT ne peut gérer une carrière appartenant à une entreprise privée.
Actualité Afrique Monde.
Attaque meurtrière au Burkina Faso. Selon des informations de RFI, les hommes armés sont revenus dans le village de Solane, frappés par une attaque dans la nuit de jeudi à vendredi. Attaque qui a fait plus d'une centaine de morts. Après l'inhumation des victimes et le départ des éléments du détachement militaire de Séba, les assaillants ont refait irruption à Solane hier dans la soirée. Ils étaient nombreux, au moins 200 combattants, selon certaines sources. Une journaliste de la chaîne Al Jazeera, violemment arrêtée hier par la police israélienne à Jérusalem-Est, Givara Boudeiri, couvrait un rassemblement dans le quartier de Sheikh Jarrah pour le 54e anniversaire de la Naksa, un terme que les Palestiniens utilisent pour décrire l'occupation israélienne de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967. Sur les images de l'arrestation, on voit au moins 5 policiers israéliens encerclant la journaliste qui tentait de se défendre avant d'être menottée. Elle a précisé à la sortie du commissariat avoir reçu des coups de pied, avoir été traitée comme une criminelle.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le coordonnateur diocésain des écoles catholiques au diocèse de Mbujimayi. Il nous parle des journées catholiques de l'enseignement organisées par la coordination diocésaine des écoles conventionnées catholiques. En effet, c'est depuis 1976 que l'État congolais a rétrocédé la gestion de certaines écoles à l'Église catholique. Quel bilan fait-on de la gestion de ces écoles par l'Église catholique? Stanislas Kabea s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafina.
Monsieur Stanislas Kabea Chibaka, pourquoi avoir commémoré les journées catholiques de l'enseignement au diocèse de Mbujimayi?
Nous nous retrouvons à la 13e année de l'organisation. Les journées catholiques de l'enseignement, c'est juste pour renforcer notre identité catholique. Nous sommes en train de fêter la date de la signature de la convention entre l'État et l'Église. Vous savez, dans le temps, il y avait eu des problèmes, la République démocratique en ce temps-là, Zaïre, c'est le maréchal Mobutu qui avait eu un peu de soucis avec les églises. L'État zaïrois avait arraché de main des catholiques toutes les écoles. Il a fallu 2 ans après pour constater que c'était la débâcle, que tout n'allait pas pour le mieux. Et finalement, on devait retourner les écoles à l'église. Et on ne pouvait pas le prendre comme ça, l'église comme étant notre mère. Il était question qu'on puisse faire une convention. Voilà, nous fêtons la convention et en même temps, nous sommes là en train de renforcer notre identité catholique.
Et c'est depuis 1976 que les écoles, comme vous dites, avec le feu maréchal Mobutu, que les écoles ont été rétrocédées donc à l'Église catholique. Quel est le bilan par rapport à la gestion des écoles par l'Église catholique?
Il faut reconnaître qu'à ce temps-là, d'abord, s'il faut parler de l'enseignant, l'enseignant était beaucoup plus respecté. L'enseignant avait un salaire décent. L'enseignant vivait, il était envié. L'enseignant, il n'était pas n'importe qui. Mais voilà, ça a évolué. Malgré la rétrocession, les choses ont évolué.
Quel est l'état des lieux que vous faites de l'enseignant catholique?
L'enseignant catholique, depuis que je suis gestionnaire des écoles catholiques en Mbujimayi, laissez-moi vous dire que tout marche bien. Vous avez les résultats. Nous sommes un réseau qui, chaque année, nous nous distinguons. Nous formons des élèves qui se distinguent aussi. Je suis fier de vous présenter mes élèves qui sont de grands avocats, mes élèves qui sont de grands médecins, qui sont de grands débrouillards, des commerçants. C'est vous dire que Dieu nous a aidés et tout s'est bien passé normalement.
Et qu'est-ce qui peut être à la base de ce succès?
À la base de ce succès, c'est, d'après moi, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aimer. Aimer son métier. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, aimer cet enfant que nous recevons. Comme le Père évêque aime le dire, vous enseignants, chacun reçu de l'Éternel le carnet. Ce carnet vide, le jour où vous allez rentrer auprès de l'Éternel, il va vous poser la question. Il ne faut pas lui remettre le carnet vide. Dans le champ où on vous a appelé à travailler, le carnet est rempli de quoi? Est rempli de la corruption, de la machinité, rempli de l'immoralité. C'est par rapport à tout ça. Je suis convaincu que l'enseignant s'est très bien défendu et continue à se défendre.
Quelles sont les difficultés auxquelles les écoles catholiques sont-elles confrontées?
Ici en province, les parents ont très mal interprété la gratuité. La gratuité, c'est à l'école primaire qu'il y a la gratuité. À l'école secondaire, je vous donne un exemple, une école dans laquelle les élèves payaient en ce temps-là, avec la motivation des parents, 17 500 par mois. Aujourd'hui, nous avons réduit sensiblement parce que ce sont les retombées de la gratuité. Aujourd'hui, dans ces écoles, on paye à peine 4 500, 5 000 francs le mois. Ce sont les élèves eux-mêmes qui demandent. Les parents veulent qu'on nous chasse pour payer après. C'est dommage. Nous demandons aux parents de ne pas dévaluer l'enseignant et de prendre cet enseignant qui donne cours à son enfant au sérieux. Parce qu'il accepte quand même, parce que nous avons ce salaire, il n'est pas payé. Il n'y a que le NU. Le NU qui demeure, qui ont remplacé les inspecteurs jusqu'au moment où je vous parle. Et ce NU n'est pas payé. Et c'est bien dommage. Comment voulez-vous? Quelqu'un doit préparer ses leçons, doit préparer ses médecins, doit convaincre les élèves. Mais il est dans quelles conditions? C'est par rapport à tout ça que je voudrais demander, n'est-ce pas? Chez moi, par exemple, il y a le vieillissement du personnel. Je suis en train de faire un travail où je vais peut-être à la clôture de cette année présenter au diocèse le plus vieux enseignant. Je vous dis déjà, j'ai des enseignants qui ont été engagés en 1963 et qui donnent cours jusqu'aujourd'hui.
Vous avez retenu les deux jours, donc vendredi et samedi, comme journée catholique de l'enseignement. Quelles sont les activités qui sont programmées?
En principe, chaque année, nous organisons les journées catholiques pendant 3 jours. Et nous profitons de la détente. Hein, pendant que les élèves vont présenter les examens du premier semestre, ils ont 3 jours de détente. Au lieu qu'ils restent sans occupation, on commence par la culture, c'est la réjouissance. Ce sont des conférences, les enseignants, on peut inviter un prêtre pour un sujet qui cadre avec la religion. Nous organisons un grand défilé sur la place publique. Nous clôturons, nous chitons par une messe d'action de grâce où nous allons dire merci à notre Dieu qui nous a protégés toute l'année.
Monsieur Stanislas Kabea-Chibaka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Esther.
Notre invité, le coordonnateur diocésain des écoles catholiques au diocèse de Mbujimayi, répondait aux questions de Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivis. Okapi Sport continue avec Dieudonné Joseph Kabeangalula.